La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Luc Ferry, bonjour.
Bonjour David.
Qui me parlait à l'instant
de philo.
Philosophie.
Oui.
Avant qu'on évoque cette libération au compte-gouttes des otages, otages contre prisonniers entre Israël et les Palestiniens, un mot sur la mort de Gérard Collomb. Vous m'avez dit ces vieux socialistes m'inspirent.
Oui, j'avais de l'amitié pour lui, j'avais du respect pour lui, de l'estime pour lui, parce que j'aime bien ces vieux sociaux-démocrates qui viennent d'un milieu populaire, qui ont réussi à être maire d'une des plus grandes villes de France, qui ont réussi à être ministre et qui disent des choses que l'extrême gauche n'ose pas dire. Voilà, et donc je trouve que c'était une voix importante. D'ailleurs, tout le monde reprend aujourd'hui le côte à côte, le face à face. Tout le monde en parle parce que ça venait de lui. Si c'était Marine Le Pen qui avait dit ça, personne ne l'écouterait. Mais comme ça vient d'un vieux social-démocrate dont personne ne peut suspecter l'honnêteté sur ces sujets, en tout cas, on est interpellé par cette phrase qui dit, voilà, autrefois les Français étaient côte à côte les uns avec les autres, maintenant ils sont face à face. Voilà.
Vous partagez ce constat?
Oui,
ou
bien
c'est
sûr,
exagéré?
C'est une évidence. Non, c'est sous-estimé, c'est une évidence, oui. Non, c'est une évidence, donc il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Donc c'est une évidence qu'on est maintenant face à face et pas côte à côte. Voilà, donc il est clair que ce social-démocrate honnête qui tirait la sonnette d'alarme a dit quelque chose de vrai. Voilà, et donc il faut l'écouter. Encore une fois, quand ça vient de quelqu'un comme lui, il faut l'entendre.
Luc Ferry, Esprit libre du lundi sur Radio Classique. Parlons d'un autre face-à-face, celui qui oppose Israël au Hamas. Dans ces libérations d'otages contre trêve, 10 otages libérés égale une journée de trêve supplémentaire. Israël voulait faire la guerre, elle se retrouve à négocier au jour le jour avec l'ennemi qu'il fallait anéantir. Est-ce que la paix est à ce prix?
Non, ce qui est très intéressant dans cette histoire, qui est évidemment catastrophique par ailleurs, c'est ce renversement de situation. C'est-à-dire que la priorité des priorités après le 7 octobre, c'était la guerre, c'était la destruction de la puissance de nuisance du Hamas, et puis c'est devenu la libération des otages. Et c'est très intéressant parce que de la guerre, on est passé à l'humanisme de l'amour, si je puis dire, c'est-à-dire la sacralisation de l'individu par l'amour. Et ça n'existe que dans une démocratie qui non seulement, évidemment, a pour principe comme la nôtre, les droits de l'homme, mais c'est aussi une démocratie dans laquelle l'amour sacralise. Moi, j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet, sur la sacralisation de l'individu par l'amour. L'amour sacralise. Sacralise au sens propre du terme. Sacraliser, ça veut dire que le sacré, c'est l'objet du sacrilège et du sacrifice possible. Si on touche un cheveu de votre fille, mon cher David, que je connais, je suis sûr que vous êtes prêt à prendre les armes immédiatement, parce que ce sera sacrilège.
De mes deux filles.
Oui, mais celle que je connais, j'en en connais qu'une des deux. Voilà. Et donc, c'est pareil pour moi. Et donc, c'est très intéressant de comprendre que l'amour sacralise, c'est-à-dire rend l'objet aimé objet d'un sacrilège possible et d'un sacrifice possible. Et c'est ça qui s'est passé en Israël. Quand on voit les photos de ces bébés, on se dit, mais si c'était ma fille, si c'était mon fils, je serais prêt à tout pour obtenir la libération. Et du coup, les familles, la société civile israélienne, elle a obtenu de son gouvernement que on inverse les priorités. Et du coup, le Hamas, évidemment, en joue de manière ignoble, mais bon, il est ignoble de A jusqu'à Z, donc il ne faut pas s'attendre à autre chose, en obtenant trêve sur trêve en fonction des otages qu'il libère au compte-gouttes.
Luc, ceci dit, le Hamas fait libérer des prisonniers palestiniens et le retour des prisonniers en Palestine, ou en tout cas à Gaza, dans leur famille, symboliquement et très concrètement, décisif pour les Palestiniens. C'est quelque chose qui compte énormément, le retour des prisonniers palestiniens.
Oui, ce qui est très grave dans cette affaire, c'est pas le retour de ces gens dans leur famille. Et on peut comprendre que les familles soient heureuses elles aussi de les revoir. Mais c'est le fait que le Hamas s'installe de plus en plus en seule représentation possible de la Palestine. Voilà. Et donc on voit mal une autre représentation apparaître. Or, le fait que le Hamas soit le seul représentant possible aujourd'hui de la Palestine, quand je dis Palestine, je veux dire Gaza et la Cisjordanie ensemble, ça rend toute hypothèse de paix impossible, tout simplement, parce que jamais Israël ne pourra accepter que ce soit le Hamas qui représente une alliance possible de Cisjordanie et de Gaza dans un nouvel État. Et du reste, la deuxième grande difficulté, vous le savez comme moi, c'est qu'il y a 480 000 colons en Cisjordanie, dont on imagine mal qu'ils deviennent... Oui, sans doute plus. Enfin, officiellement, c'est 480 000 en Israël, bon, selon les chiffres israéliens, mais c'est sans doute plus. Danny Cohn-Bendit me disait hier, ce sont pour beaucoup d'entre eux de purs fascistes. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on les voit mal devenir palestiniens ou même palestino-israéliens, avoir une double nationalité. Donc le vrai problème, il est double, si vous voulez, pour parler de la Suisse, c'est à la fois que le Hamas s'installe quasi définitivement en seule représentation possible de la Palestine. En tout cas, on n'en voit pas d'autres pour l'instant. Et c'est évidemment inacceptable pour Israël. Et deuxièmement, c'est le fait que les colons de Cisjordanie ne peuvent évidemment pas, eux non plus, accepter d'être israélo-palestiniens, d'avoir une double nationalité. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, voilà.
Le péri, ça veut dire que oui. On est...
La guerre commence juste.
On est parti pour une guerre de plus ou moins haute intensité en fonction des enjeux pour l'opinion publique israélienne et de la capacité de souffrance des Palestiniens.
Oui, sauf à renverser absolument la table et à dire, voilà, au fond que les États-Unis et l'Arabie Saoudite et les pays arabes qui ont signé, si je puis dire, ou qui étaient prêts à signer, en tout cas à normaliser leurs relations avec Israël, s'allient avec les États-Unis pour mettre Israël sous tutelle, mais c'est inimaginable. Donc voilà, est-ce que je crains, je veux pas dire des choses qui sont trop atroces, mais voilà, je suis toujours hanté par cette idée qu'Israël c'est 20 000 km², c'est-à-dire rien, et donc et c'est 9 millions d'habitants, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Bon, et que je parle en termes de géographie, si vous voulez, et en termes de démographie, je parle évidemment pas en termes de poids dans le monde.
Vous sous-entendez qu'Israël est fragile?
Oui, je pense que Israël peut être détruite aujourd'hui, et que ce que je crains, c'est ce qu'on appelle les bombes sales, c'est-à-dire ces mélanges de bombes radioactives et traditionnelles, si je puis dire, qui suffiraient à détruire la moitié du pays. Donc je pense que la paix n'est plus une option aujourd'hui, c'est une obligation absolue en termes de sécurité pour Israël, et donc ça suppose qu'on règle à la fois le problème de la représentation de la Palestine, et pour l'instant on voit pas trop comment, mais aussi le problème des colons en Cisjordanie, et c'est vrai qu'on ne voit pas trop comment. Donc il faut renverser la table, sinon on va à la catastrophe.
Un problème insoluble, mais un problème à régler, si je vous ai bien compris.
C'est vital.
Il y a aujourd'hui quelque chose qui aurait pu concerner le ministre de l'Éducation nationale que vous avez été et qui le concerne encore d'une certaine façon, c'est le procès des adolescents qui ont désigné Samuel Paty, leur professeur, à son assassin contre de l'argent. Il démarre aujourd'hui ce procès, c'est le procès d'un engrenage monstrueux, mais également d'un dérèglement de la relation entre un enseignant et des élèves.
Le problème de ce type de procès, alors je connais pas le détail, donc je vais être extrêmement prudent, mais le problème c'est que si les sentences prononcées par les magistrats sont du genre rappel à la loi ou quelques heures de travaux d'utilité publique, etc., les gamins en ressortent comme si c'était une médaille. C'est ça le problème, il faut faire très attention à ça.
Leur avocat dit qu'ils sont punis à vie par ce qui est arrivé.
Punis à vie par qui et par quoi?
Par les conséquences d'actes, de leurs actes.
Le discours des avocats, en l'occurrence, qu'un intérêt extraordinairement limité.
Donc il faut une sanction, une vraie.
Oui, c'est ça, parce que sinon, encore une fois, quand vous punissez mal, c'est-à-dire très peu, des personnes, même si ce sont des enfants, qui ont fait des choses atroces, ils en ressortent avec l'idée que finalement, c'est comme une médaille, c'est comme si ils avaient passé une épreuve et que cette épreuve leur donnait, au fond, une plus grande force pour continuer dans la même voie. Voilà, et donc je suis toujours très inquiet. Vous savez, moi j'ai une fille qui a été bousculée par quelqu'un, comme ça, elle était à vélo à 2h du matin, un type qui était un Soudanais qui était complètement bourré, enfin qui était bourré de crack, voilà, bon, et qui l'a tabassé après. Et le gars, il a pris 2 mois avec sursis. Je veux dire, pourquoi pas la Légion d'honneur? Bon, ça rime à rien. Je veux dire, il y a des sanctions qui n'ont aucun sens, vous voyez. Et donc, parce que sous prétexte que, voilà, il était en état d'ébriété, qu'il était bourré de crack, de toute façon, c'était par contumace. Bon, et donc, je dis que quand les magistrats prononcent des peines qui n'en sont pas, les gens qui en sortent avec le sentiment que, finalement, tout est permis, voilà. Et ça, il faut faire très attention à ça. Et c'est très compliqué parce qu'il s'agit d'enfants, il s'agit de jeunes gens, en tout cas d'adolescents. Donc c'est extrêmement difficile de choisir le type de punition qui convient à des jeunes pour qu'ils n'en ressortent pas avec l'idée que tout est permis, voilà.
Luc Ferry, on va terminer justement sur cette idée de sanction. On n'a plus de temps, mais est-ce que la philosophie s'est penchée sur ce qu'est une bonne sanction ou une bonne peine, à la fois pour la société, mais parfois pour celui qui a commis le crime ou le délit?
Oui, bien sûr. L'idée de proportion. Et il y a même, il y a même des textes tout à fait magnifiques sur la déconstruction, si je puis dire, de la peine de mort. Donc là, on va à l'extrême.
Mais c'est Foucault là. On est chez Foucault, surveiller et punir.
Non, c'est bien avant. Là, on est dans une discussion qui anime tout le XVIIIe siècle sur la question de la perfectibilité humaine, donc contre la peine de mort, avec cette idée que la perfectibilité humaine ne doit jamais être oubliée et que du coup la peine de mort met un terme à cette possibilité de rédemption, à cette possibilité de perfectibilité. Vous savez que l'Église a toujours été pour la peine de mort. Et donc, même encore aujourd'hui, même avec des correctifs, alors l'Église a toujours été pour la peine de mort dans certains cas, elle l'est encore aujourd'hui dans des cas très particuliers, mais parce que elle considère qu'il y a une deuxième vie, et donc la perfectibilité sera possible après. Mais si on n'est pas croyant, évidemment, la question de la proportion entre la faute et le châtiment est une question qui a animé tout le XVIIIe siècle, de manière tout à fait passionnante. Et si vous voulez, on en reparle.
Ben oui, parce que je suis obligé de vous condamner à revenir la semaine prochaine dans Esprit Libre, Luc Ferry, dès lundi prochain. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire La frénésie du bonheur, à suivre la météo, le flash d'Augustin Lefebvre et François.